Est-ce que mentalité ou état de fait, qui sont des concepts, disons, trop englobants et trop fossiles pour pouvoir être vraiment maniables, il y a des bon, ecclésiologie est un terme aussi que j'emploie souvent pour dire ça, il y a un projet ecclésiologique d'une pensée chrétienne à un moment donné pour penser une société chrétienne et dans laquelle le point central est la gravité des rapports, et donc l'usure est les deux points essentiels, enfin deux ou trois points essentiels, c'est le mariage donc, contre la prostitution et l'usure. C'est vraiment les deux thèmes obsessionnels de cette époque-là. Et c'est vraiment pour ça qu'on trace partout l'intérêt dans tous les contrats possibles, ce qu'il y a dans une usure. Et il y a un moment où on passe à une autre forme, donc c'est à une autre obsession, aussi parce qu'on change le régime économique et politique. Il y a force en même temps de régime économique et politique.
Non, mais alors, quand on fait une société parfaite, c'est un théorie, tous les gens ils peuvent faire une infraction. C'est le prêteur, évidemment, le jury est coupable, mais quand il s'agit de rapports sociaux ensemble, c'est pas seulement le prêteur qui est coupable, qui est l'infraction. C'est aussi la société qui l'accepte, l'emprunteur éventuellement.
Alors, donc,
qui est considéré comme.
On considère que l'emprunteur le commet involontairement. Il y a un grand débat, mais on dit qu'il est contraint, il aurait voulu emprunter sans usure, et il n'a pas trouvé autrement, donc il est involontairement qu'il emprunte à usure. Donc le discours cherche à exonérer les emprunteurs et à mettre l'accent. En fait, en réalité, c'est sur le péché d'usure, mais en pratique, c'est très vite sur les usuriers, un groupe social de gens qui pratiquent cette chose-là, et qui sont un scandale absolu aux yeux des ecclésiastiques qui voudraient que tout le monde travaille. C'est aussi l'autre grande obsession qui est derrière, c'est mettre le monde au travail et avoir le salut par le travail. Donc, qui est un très grand point, je pense que, enfin, je dois en un peu parler, mais peut-être pas suffisamment, pour compléter le terme de Thomas Weber, le salut par le travail, c'est une chose chrétienne médiévale, et qui est très fortement actionnaire, justement à partir du XIIe siècle. Et donc, le jury, c'est le scandale, c'est qu'il n'a aucune compassion pour les autres. L'image la plus forte, c'est pas le vol de temps. Enfin, le vol a beaucoup aimé l'idée du vol de temps, mais à mon avis, c'est pas l'image, même statistiquement dans les sermons, c'est le cannibalisme de l'usurier qui est l'image la plus forte. Et l'usurier, c'est celui qui vraiment voit le sang des chrétiens. Donc, une image qu'on revoit aussi arriver dans Shylock, qui est une chose extrêmement forte, le cannibalisme. Et on compare les usuriers à des animaux. Des animaux cannibales, enfin, mangeant la chair, même parfois la chair de leurs enfants. Donc c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui détruit le lien idéal de société, qui doit être fondé effectivement sur ce pur amour. Voilà. Et donc, l'idéal chrétien peut demeurer, alors que dans la pratique, c'est pas du tout les juifs qui font la loi sur terre. Et c'est une chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre. Et les causes, il n'y a pas de divorce total entre ce qui se passe et ce qui se dit. Hein. Et on peut tout à fait penser que moralement, c'est pas bien, mais on le fait quand même. Et la solution pratique qui est trouvée, et là, c'est vraiment le meilleur marqueur pour comprendre le phénomène qui est à la fois social et culturel de l'usure, c'est les restitutions. On voit à partir de 1178, pour la première grand cas, mais ça vient très très vite, il y a une épidémie de marchands ou usuriers qui, sur leur lit de mort, font un testament en demandant la restitution de tous les profits mal acquis, qui en général sont de nature usuraire. Et c'est la grande formule pour se libérer avant décès. Et on a des testaments vraiment fabuleux parfois, toutes les sommes à restituer, et une grande discussion sur qu'est-ce qu'on fait des sommes dont on ne sait pas à qui elles ont été prises, est-ce qu'on peut les... Hein, et les franciscains, ça peut être donné à lui pour le bien des pauvres. Nous sommes les pauvres du Christ. Et les protestants radicaux qui sont scandaleux.
Alors, du point de vue de l'histoire de l'Église dans l'État, il y a une question qui, je trouve, n'est pas tellement abordée, mais si je ne comprends pas, c'est dans quelle mesure l'Église intervient-elle pour imposer ce qu'elle souhaite à l'État ? Chose qui se fait sans cesse actuellement, pour le divorce, l'avortement, etc. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est le cas ? Ça ne veut pas dire qu'elle réussit forcément, mais est-ce qu'elle l'essaie ? Ce que vous disiez, est-ce qu'elle l'essaie officiellement, de manière, ou est-ce qu'elle l'essaie par un lobbying plus ou moins discret ? Est-ce que tu disais, par exemple, du congrès du concile ou de, je ne sais pas, d'Orléans ?
De Vienne.
De Vienne, quand les ecclésiastiques disent...
c'est le roi qui est son grand conseil.
Quand les ecclésiastiques disent, on ne prend pas position, alors est-ce qu'il faut concevoir ça comme le fait qu'ils disent, le roi gouverne ce qu'il veut, ou est-ce qu'ils concevoir ça comme une sorte de rébellion maître, c'est-à-dire, on veut vous montrer qu'on veut montrer au roi qu'on est contre. Mais comme on ne veut pas dire qu'on est contre, on ne dit rien.
Mais c'est pas une rébellion du coup, c'est on est gêné sur ce problème-là, donc en fait, c'est pas par vote, mais pour la discussion. Mais en revanche, je pensais au concile de Vienne, là, c'est une façon très forte, donc c'est l'Église en tant que tête qui prend une définition et qui dit que l'usure est un péché, on ne peut pas dire que c'est un péché, effacer toutes les dispositions qui disent, qui autorisent ouvertement l'usure. Donc, l'Église veut un régime qui est celui que
cherche à imposer ce régime.
Voilà. Alors, j'ai pas mentionné, Chatillon, c'est un livre intéressant sur la question, et montre notamment que la ville de Marseille avait un statut en ce sens-là qui autorisait l'usure, et à la suite de ce concile, a annulé la disposition dans les statuts de la ville de Marseille pour se mettre en règle avec le concile, qui est juste là-haut. Mais sinon, à ces deux niveaux différents, il y a de la prédication. On a une activité très forte des observants franciscains en Italie au XVe siècle qui partout font une prédication contre l'usure, contre les juifs et à la fin du monde, et qui aboutit souvent à chasser les juifs. C'est eux qui tentent de créer le fameux monde piété, parce que dans tout cas, voilà, tout s'est créé. Donc il y a une politique ecclésiastique qui réapparaît à différents moments. Mais ça dépend des sources de l'équilibre local des pouvoirs entre l'Église et l'État, et en France, à partir de Philippe le Bel, c'est le roi qui décide.
J'ai une question. Moi, j'ai suivi les négociations au début du 19e. Il y a un usage en France qu'on appelle le jour de grâce, qui veut dire en fait une traite, suivant les villes, en fait, si elle est payable, sans intérêt, X jours après l'échéance. Par exemple, à Marseille ou à Lyon, c'est 10 jours, à Rouen, c'est 4 jours, à Nice, c'est une journée.
C'est la proximité
des et en fait, je veux savoir si c'est des choses qui existaient déjà à votre époque, parce que c'est vraiment du commerce d'intérêt, c'est-à-dire que c'est un usage qui est par ville, par place, où on a le droit, un débiteur a le droit de payer son intérêt avec tout ce jour de retard.
C'est très très intéressant, c'est le même vocabulaire, hein, ça vient de là sûrement, mais ça ne se pratique pas. Ça, je faire une mention.
Je sais pas si c'est que ça existe pour le calcul de l'intérêt de change, il me semble que de Rouleur en parle, sur les foires de champagne et les différentes foires, ouais. La vidéo, il y a un délai de calcul automatique libératoire pour le montant pendant ce délai-là. C'est-à-dire que l'échéance ne commence à courir qu'à partir d'une certaine date, pas à la date de conclusion du contrat.
Ouais. Donc c'est pas du tout de délai de paiement en réalité.
C'est normatif.
Ouais.
C'est normatif suivant les places. Et ça existe, et c'est même normatif suivant les places et les branches industrielles.
C'est normatif suivant les villes. Du 19e, c'est normatif suivant les villes. C'est vraiment un délai de paiement. Ouais. Parce que c'est une traite, et je suis le 30 mars. À Lille, on a le droit de la payer le 2 mars. À Rouen, le 5.
C'est normatif au sens où ça impose.
C'est un usage qui
automatique.
Et qui diffère suivant les villes.
Ouais. C'est un rêve de cette économie.
C'est pour ça que
je posais la question sur les 3 mois ou 6 mois, le paiement à 3 mois ou à 2 mois ou à 1 mois, des reconnaissances de délai, a priori sont d'intérêt aussi.
Oui,
sur un délai. Les intérêts ne courent jamais du début.
La prescription a pesé fortement dans les esprits, donc ça va être.
De toute façon, l'intérêt légal est plafonné dans les pays
aux États-Unis. Oui, mais en France aussi maintenant, on a le taux de l'usure, c'est le taux maximum au sens du
contrat. Je ne sais pas s'il y a un taux d'usure, faut que je vois, parce que j'en sais rien, mais il y a un taux légal de référence. C'est le taux normal.
À quelle époque vous voulez dire?
Au XVIIIe siècle.
Dans les
5%.
En France, c'est 5 pour les relations commerciales et 6 pour les relations entre particuliers.
C'est un taux normal.
Mais je suis tombé sur des rapports où à Marseille, les gens se plaignent que les facteurs sur vierge prête encore à soit à 100% par an. Mmh.
Ouais. Je ne sais pas si au 19e, il y a vraiment un taux d'usure qui est défini sûrement par la jurisprudence.
Voilà. La loi 1807 dit que normalement, une relation entre particuliers, le taux est de 6%.
Ouais. Mais après, bon.
C'est aussi ce que dit, oui, c'est aussi ce que dit la common law, mais je voudrais bien savoir s'il y a un taux d'usure réel au-delà duquel il y a intervention.
Ben, il y a eu les mesures en appel qui ont rendu les dettes non payables.
Oh, la faillite civile.
Non, non, en fait, les dettes des usuriers ont été déclarées non payables par un défaut de police.
Et le taux normal, 5%, c'est celui qu'on définit à Florence au XIVe siècle. Hein, pour il y a différentes formes d'emprunt et l'emprunt de base est à 5%. Alors que on peut seulement commencer à 14% pour les gros prêts à court terme en urgence.
C'est désigné comme un taux normal ou bien
non, non, le mot n'est pas normal, certainement, mais.
Premier, probablement toujours des gens là, hein.
Faut que je vérifie les termes, mais c'est vraiment l'aider aux jeunes qui suivent ces contrats, ou aussi bien qu'en en parle en disant que c'est le taux de, enfin, c'est un taux de référence, et au-delà, c'est pas bien. Moralement, c'est pas bien.
Oui, parce que, moi, dans ma période, le taux en vigueur, généralement, quand un négociant veut emprunter à son banquier, il emprunte entre 9 et 12%, alors que la loi, il aurait dû fixer à 5, donc,
Oui, la question c'est plus est-ce que parfois il y a des procès si c'est 30 par exemple et que les gens sont condamnés quoi. Est-ce qu'il y a une limite
Ça je sais pas.
Moi non plus, mais je pense que c'est assez facile à trouver pour la France, pour les anglo-saxons.
Normalement aussi, si on a les bases les douanes, c'est pas notre cas, mais bon.
Non, mais dans le recueil de jurisprudence.
Ils sont en ligne maintenant.
C'est-à-dire, nous, ils ne sont pas en ligne.
J'avais deux points. Moi, je travaille sur les emprunts mutualistes. Et là, ce qui me frappe dans votre présentation, c'est le fait que on surmonte les obstacles, notamment de l'éloignement, de la garantie, etc., par un système de connaissance. Et on va retrouver ça avec les systèmes mutuels. À chaque fois qu'ils se mettent en place, c'est parce que le système de garantie est trop lourd qu'il est surmonté par l'interconnaissance entre les gens. Voilà. Et le deuxième point, c'est le temps. Parce que effectivement, on voit en fait dans le deuxième exemple que vous donnez, il y a un calcul de rentabilité, et puis qui est arrivé. Mais effectivement, c'est pas si bête de tenir compte du temps, parce que au fond, il ne sait pas très bien à quel prix il achète. En plus, il va sans doute être livré avec un délai approximatif.
Deux mois.
Il est livré dans une période pas très sûre. Il se démerde, qui en 1812 ne doit pas être très sécurisé pour des bateaux anglais. Et le temps compte beaucoup, c'est à quel moment je vais réussir à vendre la marchandise que j'ai achetée en Angleterre à un prix suffisamment rémunérateur, etc. Donc ça explique que ça puisse durer 9 ans.
6 ans.
Ouais. 6 ans.
C'est, ouais, c'est bien.
Donc voilà. Donc c'est deux points, moi, c'est qui me frappe le plus. Le temps est quelque chose de considérable. Ouais.